Bonjour les amis, vous écoutez Morceau Choisi Tonight. C'est une émission un peu spéciale. Mon partenaire habituel, Francis Fischer, n'est pas là. Et j'ai invité un autre partenaire et ami, Rudy Morandini. Rudy Morandini, nous nous connaissons depuis quelques temps déjà. Et Rudy, toi tu es médecin. Tu es artiste, musicien, peintre, sculpteur, homme de théâtre, enfin plein de choses dans le genre. Mais tu es aussi impliqué un petit peu dans l'écologie, puisque tu as fait des conférences il y a quelque temps dans la région sur les pesticides.
Oui.
Et alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser aux pesticides ?
Eh bien, d'abord, merci Nervin de m'inviter. Ben, j'étais médecin donc à Colmar pendant une quarantaine d'années. À présent, je suis retraité. Et puis, ce qui m'a frappé pendant mon exercice, c'est l'augmentation importante de la survenue des cancers. Je rappelle quand même, on a 60 000 nouveaux cas de cancer du sein, autant pratiquement de cancer de la prostate. Et ça pose question, bien sûr. Alors, la raison toute trouvée, bien sûr, c'est de dire que la population vieillit et par conséquent, l'ombre de cancer augmente aussi puisqu'elle touche préférentiellement les sujets âgés. Mais si on analyse plus finement, on s'aperçoit quand même que les cancers touchent une population de plus en plus jeune avec une augmentation très importante chez les moins de 50 ans et que certains cancers, qui étaient vraiment rares au début de ma pratique, je pense notamment au cancer du pancréas, ce sont des cancers qui sont devenus fréquents. 8 000 nouveaux cas de cancer du pancréas avec une progression de 4% chaque année. Donc, mais qu'est-ce qui a pu changer pendant ces 40 ans ? Eh bien, c'est essentiellement notre environnement. Ce que l'on boit, ce que l'on mange et ce que l'on respire. Et je me suis rappelé de ce fameux scandale sanitaire avec l'usage de la chlordécone. C'est un organochloré comme le DDT et le lindane, le fameux lindane, qui ont été interdits dans le monde entier en 1976 et qui ont été autorisés aux Antilles jusqu'en 1993, soit 17 ans plus tard. Alors c'est un polluant organique persistant, lipophile, bioaccumulable, très stable et résistant, que l'on trouve encore actuellement dans tous les sols et les eaux aux Antilles. Et ces malheureux Antillais détiennent un triste record, celui du nombre de cancers de la prostate.
Qui est considéré là-bas comme une maladie professionnelle.
Ah oui, complètement. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux pesticides. Et puis, ma foi, mes études, j'ai découvert des choses assez stupéfiantes.
Oui, l'histoire de la chlordécone, c'est donc interdit, on précise, aux États-Unis dès 1975.
Et dans le monde entier, 76.
Et dans le monde entier. Mmh. Et en France, c'est interdit en 1990 et aux Antilles en 1993. Ouais. Le décalage entre 90 et 93 s'explique parce qu'il y avait des stocks à écouler. Et au passage, ce sont quand même quatre ministres de l'Agriculture, Édith Cresson, Henri Nallet, Louis Mermaz et Jean-Pierre Soisson qui ont accordé des dérogations successives et criminelles. Donc, la chlordécone, effectivement, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde et qui continue à marquer, d'ailleurs, qui continue à marquer les Antillais et les Guadeloupéens. Et il y en a pour quand même quelques siècles.
En rappelant quand même que les Antillais de métropole n'ont pas du tout la même incidence de cancer de la prostate.
C'est ça, oui.
C'est vraiment spécifique aux Antilles, malheureusement.
Bon, on va se limiter comment on va faire ? On va faire
Si tu veux, ma conférence que j'ai fait pesticides et santé, donc santé de l'environnement, santé des animaux et santé bien sûr des humains, ça dure à peu près 1h30, voire 1h15. Donc c'est pas possible dans ton émission de parler de tout. On va forcément se limiter, bien sûr, sur les néonicotinoïdes qui ont été mis un peu en actualité avec cette fameuse loi du plomb, et puis parler un petit peu de certaines choses pour essayer un peu d'éclairer nos auditeurs,
mais d'accord,
on ne pourra pas tout traiter. Non. Mais bon, déjà quelques définitions, et puis parler un peu de l'étiquetage officiel des pesticides, et aussi finir par quelques conseils donnés pour essayer de se prémunir de ces fameux pesticides. Quoi.
Ok, un peu de musique, et puis à tout de suite. Bon, alors, avant d'en arriver au cœur du sujet, à savoir ce que nous nous sommes donné comme objectif, connaître un peu mieux les néonicotinoïdes qui ont fait l'actualité récente, il est peut-être nécessaire de rappeler quelques données essentielles, notamment le rapport de l'ONU 2022. Ah, au passage, toutes nos références sont à base d'INSERM, d'INRAE.
Essentiellement, oui.
Donc, alors, s'il y a besoin, vous pouvez toujours nous contacter et nous demander d'où ça sort. Donc, un rapport de l'ONU de 2022, où il est dit que près de 80% des terres de la planète sont dégradées car leur sol est mort ou mourant ou en voie de disparition, et en cause, l'agriculture industrielle. Cette agriculture moderne qui a modifié la planète et qui est responsable de 80% de la déforestation, 70% de l'utilisation de l'eau douce et de la plus grande cause de perte de biodiversité terrestre. Mmh. Alors, d'où ça sort cette agriculture moderne, dite moderne et industrielle? Eh bien, il faut rappeler quelques traits. Au sortir de la guerre, toute une génération de techniciens et d'agronomes se lance avec enthousiasme à la poursuite du rêve américain. Là-bas, la productivité explose grâce au couple pesticides de synthèse très récent et traction motorisée. En 1946, naissent à la fois la FNSEA, ce syndicat qui va accepter la mort programmée de ses adhérents, et l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et cornaqué par un lobbyiste de l'agrochimie très ingénieux, Fernand Villaume, les deux serviront d'ossature à un groupe très restreint de moins de 100 personnes qui mèneront la grande aventure. Villaume crée un journal Phytoma, dont il bourre le comité de rédaction de hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, notamment ceux du service de protection des végétaux, chargés en théorie de tous les contrôles. Et tous les postes sont pourvus, les pesticides déferlent. À ce stade, c'est la fête. On épand du DTT sur les plantes, les bêtes, les hommes, pendant 20 ans, rien. Mais en 1962, l'américaine Rachel Carson publie « Printemps silencieux » où elle montre l'extrême toxicité de cet insecticide. Aux États-Unis, d'où le coup est parti, le lobby Monsanto en tête, la traite d'agents du KGB et de lesbiennes. Et en France, le réseau Villaume la traîne dans la boue.
Oui, enfin, elle est comme cette femme et homme à l'origine de carrément du mouvement écologique.
Hein. C'est ça.
C'est à partir de cette date-là qu'on considère que elle a fait vraiment débuter le mouvement, cette fameuse conscience écologique. Et c'est un ouvrage quand même qui a eu un impact important sur l'environnement parce qu'il a permis de vraiment supprimer le DTT, hein, qui est une horreur.
C'est ça. Mais on constate dès le départ qu'il y a des accointances entre la FNSEA et les gouvernements
dès le départ, ouais.
Et les organismes de contrôle. Et là, on vient de voir quand même que l'ANSES vient de se faire retoquer tranquillement. On en parlera à la fin de ce retoquage de l'ANSES là, qui vient de tomber. Là, c'est en date...
De celui-là, tout récent.
Oui, tout récent. Bien. Rudy, tu voudrais peut-être nous placer un petit peu, nous cadrer un petit peu tout ce qu'on entend par pesticides, s'il te plaît.
De quoi parle-t-on finalement? On va poursuivre peut-être quelques définitions. Alors, pesticide, ça provient de la conjugaison du mot anglais « pest » qui signifie « insecte nuisible »,« parasite », qui est d'ailleurs lui-même emprunté du français « peste » et de l'élément « cide »,« cide » qui signifie « tuer », qui vient du latin « cadere ». Alors, une des définitions les plus admises, il y en a plusieurs, mais enfin, celle que on peut admettre, c'est un pesticide, c'est un produit chimique ayant une action biocide, donc biocide qui tue la vie, bio ça veut dire vivant, hein, ça veut dire vivre, et qui est employé pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles pour les cultures. Donc on distingue principalement trois grands groupes de pesticides, donc les herbicides, les plantes dites indésirables, les fongicides contre les champignons, et bien sûr les insecticides contre les insectes. Alors, il y a plusieurs familles, les organochlorés, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui sont interdits à présent,
L'indane, DTT, chlordécone, polluant persistant.
Voilà. Les organophosphorés, dont le chef de file est le fameux glyphosate. Les carbamates qui ont pris le relais des organochlorés et qui sont maintenant présents interdits depuis 2008-2009, toujours en raison de leur toxicité. Donc, c'est un produit toxique quand même. Les pyréthrinoïdes, enfin, les fameux néonicotinoïdes, le fameux tueur d'abeilles dont on va parler plus longuement. Alors, ces néonicotinoïdes qui ont été mis sur le marché depuis 1990 se sont rapidement développés dans le monde parce que, d'une part, ils sont très efficaces sur la résistance croissante des ravageurs et qui, en même temps, agissent sur une très haute concentration, il suffit de quelques grammes pour traiter un hectare. Son mode d'action est une inhibition d'une enzyme, je ne vais pas rentrer trop technique, mais quand même pour comprendre, la cholinestérase qui entraîne progressivement une paralysie, convulsion, puis la mort. Donc c'est vraiment une action centrée sur le système nerveux. On dispose maintenant d'accumulations de preuves d'un lien très net entre déficience du développement neurologique chez les enfants et ces fameux insecticides. Donc, quand même, juste un mot pour dire parler sur leur emploi finalement controversé. Après une dérogation en 2021 pour la culture de la betterave, les néonicotinoïdes sont interdits en Europe depuis 2018, puis réautorisés en France en 2022. Et en janvier 2023, la Cour de justice de l'Union européenne décide d'interdire toute dérogation pour l'usage de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes. Donc, ils sortent par la porte, mais ils rentrent de nouveau par la fenêtre, finalement, avec cette fameuse loi Dupont qui a accepté, enfin, qui justifiait, finalement, l'emploi à nouveau de ces fameux nicotinoïdes.
Oui, c'est ça. C'est une suite, en fait. Au départ, en France, c'est Barbara Pompili avec François Hollande qui interdit. Ensuite, ça c'est en 2016. Et en 2020, la dérogation demandée par la FNSEA. Et de nouveau une interdiction. Et hop, le diable ressort de sa boîte, de son chapeau. C'est Dupont, Dupont qui remet ça au goût du jour. Théoriquement, en disant que c'est sur des petites parcelles et des machins comme ça. Mais enfin, en tous les cas, le truc se poursuit.
Oui, essentiellement pour la culture donc, de la betterave et des noisettes. Alors, noisettes, c'est à l'immense Ferrero qui rafle à peu près 80% des cultures de noisettes en France pour la fabrication du fameux Nutella. Donc, on imagine bien qu'il y a quand même un lobbying très forcené pour pouvoir réintroduire ce produit qui est un tueur d'abeilles, et pas seulement d'abeilles, d'insecticides de façon très importante, avec une diminution très importante, d'une part des insectes. On sait qu'on a perdu 70%, 80% des insectes en France, et par conséquent aussi la perte de toute une chaîne, notamment des oiseaux, liée vraiment à l'usage de ces pesticides.
Bien, un peu de musique pour nous détendre. Thank you. Bon, alors, Rudy, pour se faire un petit peu une idée de l'usage des pesticides, notamment en Europe, on pourrait dire qu'il y a un lien entre l'élevage industriel et les pesticides, puisque 62% des céréales utilisées en Europe servent à l'alimentation animale, et ceci sans compter les oléoprotéagineux. Que ça, c'est responsable, mais pas seulement en Europe, il faut bien se rendre compte, d'une déforestation très très importante. En chiffres, ça représente quoi ? Par exemple, on peut dire que les Pays-Bas, c'est 11 kilos de pesticides par hectare.
Voilà, ça c'est les chiffres de l'ONU.
Oui, ça c'est... Les Pays-Bas, ils ont un gros problème avec les produits azotés. Hein. Ouais. Et donc, ce sont les premiers. Voilà, Chypre, c'est 9,2 kilos par hectare. L'Irlande, la Belgique, l'Italie, tout ça, c'est à 6 kilos. En France, c'est 3,44. En Espagne, c'est 2,6. Les champions, ceux qui utilisent le moins, on va dire, ce sont les Lituaniens, les Estoniens et les Suédois.
Ouais.
À 0,65 kilos par hectare. Et nous, on est deuxième en volume, derrière l'Espagne qui est première.
Voilà, c'est vrai. Actuellement, l'utilisation des pesticides en Europe est relativement stable depuis une dizaine d'années, hein, avec bien sûr des disparités selon les pays, comme tu l'as mentionné. On peut dire qu'on est aux alentours toujours de 3 kilos par hectare, 3 kilos. Donc la France se situe à peu près dans la moyenne. On utilise 249 pesticides en France, qui sont autorisés, 479 en Europe. Mais ce qu'il y a, c'est que la consommation mondiale, elle a bondi de 80% ces dernières années, avec certes une petite diminution en Europe, mais avec une augmentation de plus de 484% en Amérique du Sud et une augmentation également très importante en Asie. Et avec quand même une grande hypocrisie de l'Europe, parce qu'on exporte toujours des pesticides qui sont interdits chez nous depuis de très nombreuses années. On les exporte jusqu'à 81 000 tonnes de pesticides par an. Donc voilà, l'Europe s'interdit certains pesticides, mais les exporte dans les autres pays.
Continue à en vendre.
Avec, voilà, sans vergogne.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut, j'aurais parlé un petit peu de l'étiquetage officiel en Europe.
Oui.
Parce que je suis tombé sur une analyse vraiment très, très intéressante qui comparait l'étiquetage officiel de 89 substances avec des résultats obtenus par l'université de Hertfordshire et également le SAGE Pesticide qui est un registre officiel canadien. Alors c'est un peu technique, mais je vais essayer d'être le plus clair possible parce que ce document d'Alsace Nature fait bondir quand même. Alors que l'étiquetage officiel ne retrouvait parmi 89 substances testées, elles ne retrouvaient que par exemple 20% de risque reprotoxique, ces deux organismes indépendants en retrouvaient 78%. Alors que l'étiquetage officiel mentionnait que 9% de ces substances avaient un risque cancérogène, les deux organismes indépendants retrouvaient 48% de risque cancérigène. C'est-à-dire que la moitié de ces 89 substances testées avaient un risque cancérogène. Donc c'est une différence énorme. L'étiquetage officiel ne mentionnait aucun risque de perturbation endocrinienne, aucun risque de toxicité pour le système nerveux, ni pour le foie, ni pour les reins, alors que ces deux organismes indépendants avaient remarqué, signalé respectivement que 43% de ces substances présentaient un risque de perturbation endocrinienne, 41% un risque de toxicité sur le système nerveux, 55% des 89 substances testées étaient toxiques pour le foie et enfin 30% de ces substances étaient toxiques pour les reins. Donc on se rend bien compte que l'information officielle est très insuffisante et en plus on ne parle même pas de l'effet cocktail qui est totalement ignoré. J'ai appris par exemple que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la EFSA, considère que le glyphosate par exemple n'est pas cancérogène. Et pour ça, elle se base sur 2400 études dont les deux tiers sont fournies par Bayer. Alors que le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une agence intergouvernementale sous l'autorité de l'OMS, classe vraiment le glyphosate cancérogène probable. Donc tu vois que là, il y a des différences énormes. Et finalement, est-ce qu'on peut se baser sur, les étiquetages? À mon avis, non, parce que la formation est totalement biaisée. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi de l'effet cocktail?
Ah oui.
Voilà, l'effet cocktail, qu'est-ce que c'est finalement? C'est que chacun d'entre nous est exposé à un grand nombre de substances chimiques et leurs interactions peuvent avoir des effets qui sont amplifiés, voire inattendus. Les adjuvants, par exemple, qui sont peu étudiés, peuvent démultiplier les effets d'une substance sur la santé. Par exemple, l'association de deux ou de plusieurs pesticides, l'association de pesticides et d'autres polluants comme les PCB, les fameux polychlorobiphényles qui sont cancérogènes, les plastiques, les métaux lourds, le cadmium, etc., j'en passe. Enfin, il faut insister sur la sensibilité de ces substances qui peuvent varier beaucoup en fonction des périodes de la vie, avec une beaucoup plus grande sensibilité aux pesticides pour le fœtus, mais également pour la petite enfance et puis pour la puberté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore que finalement, c'est difficile d'avoir confiance dans les informations dites officielles, notamment sur les étiquetages, quand on découvre ce type d'études qui sont malheureusement pas suffisantes. On n'a pas les moyens de faire des études indépendantes parce que ça coûte cher. Et donc, on se base souvent sur les rapports des fabricants de ces fameux pesticides.
Oui, ça, c'est un problème majeur.
C'est un gros problème.
Un problème majeur. Voilà. Bon, un peu de musique histoire de se détendre. Hein.
D'accord. Oui.
Tout de suite. Thank you. Bon, alors, Rudy, là, on a envisagé un certain nombre de choses. L'utilisation massive dans le cadre d'une agriculture industrielle. Et on a peut-être abordé, mais rapidement, les effets sur la santé, sur l'environnement, les sols, l'eau. On évoquera peut-être à un moment le problème de la nappe phréatique d'Alsace, hein, et des études qui sont menées par la PRONA. Mais avant d'aborder les problèmes liés aux effets sur la santé humaine, peut-être on pourrait envisager le retentissement que ces néonicotinoïdes ont sur les animaux.
Comme on a dit tout à l'heure, les pesticides tuent. Bon, là, si on parle vraiment des insecticides, donc les néonicotinoïdes, les fameux tueurs d'abeilles, ils tuent bien sûr des insectes dits nuisibles, dont certains se sont développés grâce à la monoculture et à l'emploi massif des engrais, puisque les plantes, quand elles sont gorgées d'azote, eh bien, elles attirent beaucoup plus les insectes, bien entendu, les ravageurs. D'autant plus que la monoculture se défend beaucoup moins bien qu'une culture diversifiée. Et donc, on emploie de plus en plus de pesticides qui, bien sûr, tuent tous les insectes, également les bons insectes. Et on a pu constater le déclin de ces insectes, des abeilles, des papillons, mais également des insectivores vertébrés, comme les oiseaux et les chauves-souris. Et également, d'ailleurs, les insectivores non vertébrés, les libellules, les araignées, tout ceci diminue. Les populations d'insectes ont diminué de 70 à 80% dans les paysages européens mixtes agro-industriels. Et cette grande famille, apparue il y a maintenant plus de 400 millions d'années, représente 80% des espèces animales et contribue à 90% à la reproduction des plantes à fleurs, indispensables à notre survie. Et qui servent également de ressources alimentaires aux insectivores. Et de plus, ont un rôle de décomposeur et de recycleur de matières organiques à la base de la fertilité naturelle des sols. On a perdu 30 à 40% des oiseaux communs en 30 ans. Les hirondelles, les martinets, les bruants, les bruants jaunes, les perdigrises, les allouettes des champs, tout ça a vraiment disparu. On pense que 600 millions d'oiseaux ont disparu en Europe depuis les années 80. Une espèce sur 8 est menacée d'extinction. Et tout ça est dû essentiellement aux néonicotinoïdes, interdits depuis septembre 2018, mais qui continuent à faire des dégâts, car ils ont une action de plusieurs années, et ils se répandent à présent également dans les eaux. On en retrouve également dans les nappes et dans les cours d'eau. Et en plus, ceci, malgré leur interdiction, on se rend compte que la vente de ces pesticides ne diminue pas. Ça, c'est un chiffre du FC Que Choisir. Donc, problème. On a même un impact, pas seulement sur les organismes, sur les animaux terrestres, mais également sur les organismes aquatiques, puisqu'on a constaté également un impact de ces néonicotinoïdes sur les invertébrés aquatiques. Là, on pourrait citer des chiffres de l'IFREMER, de l'Institut français de recherche sur l'exploitation de la mer, qui constate également un impact sur les poissons, sur les huîtres, sur les phytoplanctons, sur les algues, sur les aphnières. Enfin, bref, on a retrouvé jusqu'à 3000 mètres de profondeur certaines molécules comme le DTT, qui est interdit depuis plus de 50 ans dans le monde, et tous ces produits de dégradation. Donc, ce sont des polluants, ce sont des poisons qui restent quand même longtemps dans les sols, longtemps dans les eaux, et même avec leur interdiction, continuent à avoir des effets extrêmement négatifs sur les animaux, enfin sur les insectes, mais également sur toute une chaîne d'animaux qui fait que la biodiversité, elle se dégrade considérablement ces dernières années. Est-ce que tu veux qu'on parle présent de l'impact sur la santé ou est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard? Après une page musicale.
Non, on va l'aborder tout de suite. Ça va nous faire gagner un peu de temps.
Hein. D'accord.
Alors, sur la santé, il y a la santé à court terme et oui, la santé à long terme.
Oui, à court terme, on a constaté quand même qu'il y avait à peu près, on considère 11 000 décès dus à une ingestion, à une intoxication aiguë dans le monde. Avec plusieurs millions d'intoxications, mais qui ont été responsables quand même de 11 000 décès brutaux. avec essentiellement des expositions massives avec ingestion, inhalation, et qui sont dues essentiellement à des signes, à des convulsions et à des paralysies, mais également avec des détresses respiratoires. Bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment les effets à long terme. Et là, c'est très compliqué de repérer parce que ce sont des effets qui se font petit à petit sur des années, voire des dizaines d'années. Mmh. Quand vous avez une ingestion massive, on peut assez rapidement retrouver le produit pathogène, le produit qui est responsable de cette intoxication. Mais quand vous êtes pollué, quand vous êtes empoisonné très par des petites doses tous les jours, c'est compliqué de savoir quel est le vrai polluant responsable de la maladie. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile et qu'il faut être prudent. Mais on a maintenant quand même mis en évidence une liste, c'est une étude de l'INSERM qui a pu mettre une liste de maladies professionnelles qui est liée directement à l'usage des pesticides. Ce sont des gens qui ont manipulé les pesticides, en sachant aussi que les gens qui en consomment peuvent aussi être touchés par ces maladies. Mais là, c'est plus compliqué à mettre en évidence. Et alors, parmi ces maladies, on retrouve la maladie Parkinson, lymphome non hodgkinien, myélome multiple, cancer de la prostate, on en a déjà parlé, des troubles cognitifs, la BPSO, donc la bronchite, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et puis également des troubles chez les enfants qui ont été exposés pendant les grossesses, des leucémies, des neurodéveloppementaux, des cancers du système nerveux central. Donc bref, c'est des pathologies lourdes, hein, on ne parle pas de rhume ou de cystite, là, hein, c'est vraiment des grosses pathologies, et qui sont, dont la liste grandit. Il y avait 4 maladies professionnelles il y a quelques années, maintenant on en est à 9, et on en découvre encore d'autres, puisqu'on a des suspicions avec des risques moyens de la maladie d'Alzheimer, de l'asthme, des pathologies thyroïdiennes, des leucémies de l'adulte, des cancers de l'ovaire, des cancers du poumon, des cancers du rein. Tout ça étant, on dit qu'il y a un risque possible, potentiel. Alors il n'est pas probable ou avéré, mais il est possible. Et il y a même, on pense même à l'autisme, des maladies métaboliques. Alors là, c'est un peu plus que probable, notamment le diabète. Et il y aurait même un risque de la fameuse maladie Charcot, sclérose latérale amyotrophique. Mmh. Donc, quand même des pathologies très graves et très lourdes. Et donc, ces pesticides qui sont cancérogènes aussi sont également des perturbateurs endocriniens majeurs. Avec ouais. Peut-être une baisse de fécondité, etc., malformation fœtale, enfin voilà. Donc, des pathologies graves, lourdes, qui nécessitent encore des études approfondies, parce que très difficile à mettre en évidence de façon formelle. Il faudrait prendre des gens, leur dire de consommer des pesticides, et puis voir, les analyser, mais c'est impossible.
Il n'y a pas besoin de leur dire, de toute façon, ils le font.
Malheureusement, oui. Malheureusement.
Donc, effet cancérogène, mutagène, néphrotoxique, endocrinien.
Bon, exactement. Voilà. Voilà.
Bon, voilà. Alors, un peu de musique, histoire de...
D'alléger
l'atmosphère. Oui, c'est ça, oui.
Does mouse like perfume and she powders her nose. Little sister leaning on the counter on her tippy toes. She says, Mommy, Mommy, where you been in the bathroom for so long? What is in your glass? What's for dinner? Why you got your nice dress on?
Baby, baby, my sweet summer child, I won't be making dinner tonight. I told your daddy 3 weeks ago, and there's a star stick up on the fridge.
Mama's out the door.
Mama's out the door.
And then she says to everyone, you can watch the movie, but don't stay up too long. And baby brother, can I speak louder? This is my song. She will be moving, she will be grooving. And for a moment, she won't care about everything.
but it's true. She will dance around. She wants to let it all out, so she can keep hiding the pain you'll never know about.
You'll never know about.
Alors là, on a fait, semble-t-il, Rudy, on est de retour, on a fait, semble-t-il, un état de des lieux.
On a survolé.
Voilà. Mais peut-être qu'il y a quelques chiffres qui ont pu vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a cette histoire du bio.
Oui. Hein.
Et donc, je suis tombé là sur une enquête une proposition du CNRS et qui dit le bio peut nourrir. Mmh. Alors le bio peut nourrir. D'abord, il faudrait diminuer la consommation de viande. Ça, c'est ce que nous dit.
60% des surfaces agricoles en France servent à nourrir des animaux. On consommerait un peu moins d'animaux, et ben, on n'aurait pas besoin d'une aussi grande quantité de surface.
Oui. Alors, il faudrait également appliquer le principe de l'agroécologie en insistant sur les rotations de cultures et de légumineuses. Qui sont fixatrices d'azote. Mmh. Hein. Il faudrait renoncer aux zones spécialisées, voire ultra spécialisées, on pense notamment à nos amis bretons, de façon à pouvoir utiliser au mieux les déjections animales. Rappelons que les déjections, le lisier, le fumier de nos amis bretons, avec leurs élevages industriels, c'est pour ça que les élevages industriels... sont pas forcément recommandés.
Avec quelles répercussions sur le littoral
hein. Oui, sur le littoral. Ben, là, notre ami Duplon les avait remis au goût du jour. Et donc, ça nous permettrait de diminuer les gaz à effet de serre.
Absolument.
Donc, évidemment, renouvellement de la biodiversité par ce moyen-là. Alors, le CNRS dit... selon une étude menée par des scientifiques donc du CNRS, un système agroalimentaire biologique et durable, respectueux de la biodiversité, pourrait être mis en place en Europe avec une possibilité à l'horizon 2050 de nourrir l'Europe entière. Bon, évidemment, il faudrait s'attaquer aux différents lobbies que sont BASF, Bayer Monsanto, Syngenta, la FNSEA et les grosses coopératives agricoles.
Exactement.
Alors, par rapport au manger bio, là.
C'est-à-dire, on a quand même eu un discours un peu anxiogène.
Oui.
Je ne voudrais pas faire peur aux auditeurs, mais disons que quelle solution, finalement, pour nous prévenir de cet impact des pesticides sur notre santé et sur la santé de notre environnement de façon globale. Alors, manger bio, c'est une solution, c'est même une bonne solution. Même si on peut retrouver des traces de pesticides dans les aliments bio, c'est possible, on en retrouve quand même en moyenne 10 à 14 fois moins que dans l'alimentation traditionnelle. Une étude épidémiologique qui est la cohorte NutriSanté, l'INRA, INSERM, Université Paris 13 et l'ACTA montre que les consommateurs réguliers d'aliments bio ont une diminution de 25% du risque de cancer et également une probabilité beaucoup plus faible d'avoir un syndrome métabolique, notamment diabète de type 2. Donc c'est pas innocent, c'est quand même très significatif. Et en même temps, vous avez, en ayant cette attitude-là, vous respectez plus les sols et vous favorisez des agriculteurs qui ont une conscience écologique et qui essaient de respecter et de travailler non pas contre la nature ou contre nature, mais qui travaillent avec la nature. Il faut les encourager parce qu'ils ont de plus en plus de mal. Et on sait même que la consommation bio, après avoir augmenté, elle est en train de régresser, elle stagne et elle régresse. Donc, il faut, si vous le pouvez, manger bio. Et puis également, comme il y a une contamination des eaux de plus en plus importante.
Là, ça n'en finit plus.
Ça n'en finit plus.
Et puis, c'est la contamination par, pas seulement les pesticides, les fameux polluants éternels.
Les PFAF, oui. Et puis, le cadmium, enfin, tous les intrants, les intrants, les phosphates. Là, il y a une pollution aussi avec le cadmium qui était un véritable scandale aussi. Mais enfin, bon, on déborderait un petit peu du sujet. Mais pour dire, essayez de préserver par rapport à ça et filtrer votre eau. Alors, vous pouvez filtrer votre eau avec des purificateurs d'eau à gravité qui soient par technologie d'ultrafiltration. Alors, je vais citer quelques noms de marques. J'ai pas de...
Il n'a pas de conflit d'intérêt.
Absolument pas. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est facile à faire. Ce sont des sortes de petites cuves comme ça. Vous remplissez votre eau du robinet et ça vous filtre à 99,99% tous les polluants, pesticides, métaux lourds et même bactéries, virus, tout ce que vous voulez. Alors les mots, ça s'appelle Berkey Water Purifier.
Alors B-E-R-K-E-Y Waters. W-A-T-E-R-S,
ouais.
Purifies,
voilà.
P-U-R-I-F-I-E-R-S.
Vous pouvez commander ça sur Internet, sur des cuves en inox, et c'est très facile d'entretien, et ça vous donne une eau. Alors, c'est des cuves de 5... Enfin, il y a plusieurs continents, mais 5 litres, ça vous suffit pour votre consommation quotidienne. Après, il y a Wiplo Earth, il y a Pure Well, enfin, il y a plusieurs marques, vous regarderez. Mm-hmm. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ces purificateurs à gravité. Donc, il n'y a pas besoin d'électricité ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, vous mettez de l'eau et puis vous avez une deuxième cuve qui contient cette eau purifiée. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, en même temps, on nous a fait croire qu'on était obligé d'utiliser des pesticides pour pouvoir nourrir la planète, pour nous nourrir la France. C'est faux. Clairement, le bio pourrait suffire. D'une part, si on diminuait notre consommation de viande, puisqu'on pourrait reporter les surfaces nécessaires pour nourrir les animaux, ce serait pour les humains, du coup. Aux États-Unis, c'est plus de 70% des surfaces agricoles servent à nourrir les animaux. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'on constate quand même qu'on jette 30% de notre alimentation est jetée à la poubelle. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas la totalité de ce qui est proposé. On en jette 30%. Donc là, il y a un gâchis énorme. Et donc, je pense qu'avec une culture plus raisonnée, moins industrielle, on pourrait s'en sortir et nourrir la population sans aucun problème.
Mais ce sont les propositions du CNRS.
Voilà.
Et qui demandent à être validées par d'autres. On fait une petite pause et puis on fait une conclusion.
D'accord. Hein?
Got me, yeah. You got me starting to go down. Ooh, then I remembered that my own mind was my greatest contender. So you can give me all you got, and you can throw it all at me. Never, never, ever gonna stop till I'm free. Yes. So you can give me all you got, you can throw it all at me. Never, never, ever gonna stop till I'm free. I'm sticking to my guns till my work is done. I'm sticking to my guns till my work is done. Lord, as I lay me down, I only hope I'll still be around. Woo-hoo, I got so much more. Just pray that I'll be here to see you through. So you can give me all you got, you can throw it all at me. Never, never, ever gonna stop till I'm free. Give it all you got, you can throw it all at me. Never, never, ever gonna stop till I'm free. I'm sticking to my guns till my work is done. I'm sticking to my
on arrive à la conclusion.
Ouais.
Hein, une bonne nouvelle.
Oui.
Une bonne nouvelle. on a vu que l'État, les États, j'imagine, pas seulement les Français, ne faisaient pas leur boulot. Par ailleurs, sollicitaient des organismes pas complètement indépendants.
Mmh, hein, c'est vrai.
Et soumis à la pression des lobbies.
Et se basent sur ces études-là.
Et notamment. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une décision absolument historique, la décision du mercredi 3 septembre 2025, où la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que les évaluations des produits pesticides conduites par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, sont lacunaires en ne prenant pas en compte toutes les données scientifiques disponibles. C'est quand même un peu fabuleux de demander à un organisme d'évaluer les risques et puis cet organisme, sous la pression des lobbies, ne fait pas complètement son boulot.
Eh oui.
Et hop, voilà. Donc on est, c'est un peu scandaleux, on va dire. Donc, l'ANSES, elle, là, a 2 ans pour rectifier ses évaluations en prenant en compte les données pour réparer le préjudice écologique résultant de l'usage des produits phytopharmaceutiques et notamment envers la santé humaine. Et donc, voilà, la Cour donc considère, je répète, notamment que l'ANSES a commis une faute pour évaluer les risques des produits pesticides. Alors là, ce qu'il y a, c'est que l'ANSES est parti pour de nouveau 1 à 2 ans
oui.
Pour faire sa petite évaluation. Donc là, on se prend de nouveau 2 ans dans les dents. C'est à la fois une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise. Parce qu'ils
gagnent du temps et puis voilà. Ils vont essayer...
Et pendant ce temps-là, on continue.
Et puis ils vont essayer de sortir
un autre produit, soi-disant moins agressif.
Voilà, dont il faudra de nouveau 10 ans pour se rendre compte qu'il est extrêmement toxique.
C'est ça.
Donc on n'en sort pas. Mais moi, en 20 ans, les études multiples ont vraiment fait 2 constats. La biodiversité décline à un rythme inégalé, très inquiétant. Et si on veut assurer le bien-être et même la survie de l'espèce humaine, se garder des possibilités pour l'avenir, il faut protéger. Et pour moi, c'est un devoir. Il faut protéger la biodiversité autant que possible. Et revenir à une agriculture plus respectueuse, qui ne travaille plus contre la nature. La terre nous nourrit, c'est la terre nourricière, il faut la respecter, il faut travailler avec elle, et c'est possible. Donc c'est ça que j'aimerais faire passer comme message, c'est que cette pollution qui est constante et qui est depuis 40 ans, il faut en sortir. On a fait des progrès sur la pollution atmosphérique. Les chiffres à Paris ont montré qu'il y avait une diminution, donc c'est possible. Mais pour ça, il faut vraiment une prise de conscience globale. Et surtout, finalement, on se rend bien compte que ce n'est pas les politiques qui vont nous protéger, c'est vraiment notre façon de consommer qui peut vraiment influer, avoir un impact sur la façon de produire les aliments. Donc je pense qu'il faut que collectivement on prenne conscience qu'on doit arrêter cette pollution, on doit arrêter de se polluer, on doit arrêter de s'intoxiquer. La prévention, c'est important, on l'utilise pas assez, en France, on est très fort dans le curatif. Malheureusement, le préventif, c'est un peu le parent pauvre. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience qu'il faut se prévenir de ces dangers et de ces polluants. Voilà. C'est pas facile, mais on vous a donné quelques petites pistes. Et puis, on est tout à fait
Accessible.
S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre. Voilà. Mais voilà ce que je voulais faire passer comme message.
Bien, Rudy, merci pour
merci à toi.
Pour ton intervention et peut-être ça donnera lieu à d'autres interventions.
Pourquoi pas.
Et ben les amis, à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien et consommez bio.
Salut.
Salut.